Chapitre 7. Quand Stein arriva au couvent, il trouva toute la famille réunie et se chauffant au soleil dans la cour. Dolorès, assise sur une chaise basse, raccommodait une chemise de son mari. Ses deux petites filles, Peppa et Paca, jouaient près de leur mère. C'étaient deux jolies créatures, âgées l'une de 6 ans et l'autre de 8. Le nourrisson, soutenu par des lisières, était l'objet de l'amusement de notre petit enfant, son frère, âgé de 5 ans, qui s'occupait à lui faire faire des mines et des grâces, chose qui aide beaucoup à développer l'intelligence, si précoce d'ailleurs dans ce pays. Ce jeune garçon était fort joli, mais trop petit, ce qui était la cause que Momo le faisait souvent enrager, en l'appelant Francesco de Anis au lieu de Francesco de Assis, qui était son véritable nom. Il avait un petit pantalon de gros drap avec une jaquette pareille, dont les dimensions trop étroites faisaient bouffer la chemise autour de la ceinture, d'autant mieux que le pantalon n'était soutenu que par une seule bretelle de lisière. « Fais la petite vieille, Manoliglio !» disait Anis. Et le mioche faisait une moue gracieuse en fermant les yeux à demi, serrant les lèvres et baissant la tête. « Manoliglio, tue un petit maure !» Et le pauvre petit ouvrait de grands yeux, fronçait les sourcils, serrait les poings et devenait tout rouge, à force de se gonfler pour se donner un air belliqueux. Ensuite, Anise lui prenait les mains et les tournait et les retournait en chantant « Quelle jolie petite main que celle que je tiens! Quelles sont jolies! Quelles sont blanches! Quelles sont mignonnes !» La tante Marie affilait et le frère Gabriel fabriquait des sparteries avec des feuilles sèches de palmier. Un énorme chien blanc à poils frisés, appelé Palomo et appartenant à la belle race des chiens de berger de l'Estramadour, dormait étendu de tout son long, couvrant une large place avec son corps robuste et sa queue bien fournie, tandis que Morengo, gros chat jaunâtre, privé dès sa jeunesse de ses oreilles et de sa queue, dormait par terre sur un coin du jupon de la tante Maria. Stein, Momo et Manuel arrivèrent en même temps de divers côtés. Ce dernier venait de faire le tour de la propriété dans l'exercice de ses fonctions de garde. Il tenait d'une main son fusil et de l'autre 2 lapins et 3 perdrix. Les enfants coururent vers Momo qui vida d'un seul coup sa besace, d'où sortirent, comme d'une corne d'abondance, une quantité de fruits divers, des noix, des châtaignes, des grenades, des patates, dont on a coutume de se régaler en Espagne la veille de la Toussaint. « Si Marie Salade a nous apporté du poisson demain, dit l'aînée des petites filles, cela nous ferait un vrai régal. » « Demain, répondit la grand-mère, c'est la fête de la Toussaint et certainement l'oncle Pedro n'ira pas à la pêche. »« Eh bien, dit la petite fille, ce sera pour après-demain. » »« On ne pêche pas non plus le jour des morts. »« Et pourquoi ? » demanda l'enfant. « Parce que ce serait profané un jour que l'Église consacre aux âmes des trépassés. Ce qui le prouve, c'est ce qui arriva à quelques pêcheurs qui avaient voulu aller à la pêche un jour comme celui d'après-demain. Au moment de retirer leur filet, ils se réjouissaient déjà de les sentir très lourds. Mais, au lieu de poissons, ils n'y trouvèrent que des têtes de mort. « N'est-ce pas vrai ce que je dis là, frère Gabriel ?»« Certainement, je ne l'ai pas vu, mais c'est comme si je l'avais vu, » dit le frère. « Et c'est pour cela que vous nous faites tant prier le jour des morts à l'heure du rosaire ?» demanda la petite fille. Précisément, dit la grand-mère, c'est une pieuse habitude et Dieu ne veut pas que nous la négligions. Et pour le prouver, je vais vous citer encore un exemple. Il y avait jadis un évêque qui ne suivait pas très exactement cette sainte pratique et qui n'y exhortait pas les fidèles. Une nuit, il rêva qu'il voyait un gouffre épouvantable. Tout au bord se trouvait un ange qui, avec une chaîne de roses blanches et incarnats, en retirait une femme belle, mais tout en pleurs et les cheveux en désordre. Quand elle se vit sortie de ce lieu ténébreux, la femme devint toute resplendissante et prit son vol vers le ciel. Le lendemain, l'évêque voulut avoir l'explication de son rêve et demanda à Dieu de l'éclairer. Il se rendit à l'église et la première chose qu'il vit, ce fut un enfant à genoux et récitant le chapelet sur le tombeau de sa mère.
« Est-ce que tu ne savais pas cela, petite ?» dit Pepa à sa sœur. « Eh bien, sache qu'il y avait un petit enfant qui était un saint et aimait beaucoup à dire son chapelet. Il y avait en même temps dans le purgatoire une âme qui brûlait plus que tout autre du désir de voir le bon Dieu. Voyant le petit enfant prier de si bon cœur, elle alla à lui et lui dit « Veux-tu me donner tout le chapelet que tu as récité ?»« Prends-le, » répondit l'enfant. Et l'âme se présenta devant Dieu et entra de suite dans sa gloire. Vois donc si cela sert à quelque chose auprès du bon Dieu de dire son chapelet.
Certainement, dit Manuel, il n'y a rien de plus juste que de prier Dieu pour les morts. Je me souviens d'un homme de la confrérie des Trépassés qui priait une fois pour eux à la porte d'une chapelle en criant « Celui qui jettera une peseta dans ce plateau retirera une âme du purgatoire. » Un plaisant vint à passer et, après avoir donné sa pièce, il dit « Croyez-vous, mon frère, que l'âme soit sortie déjà du purgatoire ? Est-ce que vous en doutez ?» répondit le frère. « Eh bien, je reprends mon argent, car elle ne sera pas assez sotte pour y rentrer. »
« Je vous dirai, don Frédéric, dit la tante Maria, qu'il n'y a pas une circonstance pour laquelle, à propos ou hors de propos, mon cher fils ne trouve pas toujours une histoire, une facétie ou un bon mot. »
En ce moment même, don Modesto entra dans la cour, aussi raide et aussi sérieux que lorsqu'il s'était présenté à Stein à la sortie du village, avec cette différence qu'il portait, suspendu à son bâton, une morue enveloppée dans des feuilles de choux.
« Le commandant ! Le commandant !» crièrent tous les assistants.
« Venez-vous de votre château de Saint-Christophe ? » dit Manuel à don Modesto après les premiers compliments et après l'avoir invité à s'asseoir sur le banc de pierre qui servait déjà de siège à Stein. « Vous auriez dû réclamer la protection de ma mère, qui est si bonne chrétienne, pour qu'elle demande aux saints de reconstruire les murailles de la forteresse, à l'opposé de ce que fit Josué pour celle de Jéricho. »
« J'ai d'autres choses et de plus d'importance à demander aux saints, » répondit la grand-mère.
Certainement, la tante Marie a des choses plus importantes à demander aux saints que la reconstruction du château. Il vaudrait mieux leur demander le relèvement du couvent. À ces mots, don Modesto se tourna d'un air sévère vers le frère, qui, ayant aperçu ce mouvement, se cacha derrière la tante Marie en se faisant le plus petit possible, de sorte qu'il disparut presque au regard des personnes présentes. D'après ce que je vois, dit le vétéran, le frère Gabriel n'appartient pas à l'église militante. Ne vous rappelez-vous pas que les Juifs, avant de bâtir le temple, avaient conquis la terre promise, l'épée à la main ? Y aurait-il des églises et des prêtres en terre sainte si les croisés ne s'en étaient pas emparés avec leurs lances ?
Mais pourquoi la bonne tante Marie irait-elle demander des choses impossibles ? Dit Stein, avec la louable intention de détourner de cet entretien le commandant, dont la bile commençait à s'échauffer.
« Qu'importe, dit Manuel, on ne peut réparer le passé. C'est comme celle qui demandait à Dieu de gagner la loterie. Cependant, elle n'avait pas pris de billet, et comme on le lui faisait observer, « Où serait le miracle ? Répondit-elle, si j'en avais pris un. » « Ce qui est certain, dit don Modesto, c'est que j'aurais bien de la reconnaissance pour le saint s'il inspirait au gouvernement la louable pensée de réparer la forteresse.
« Vous voulez dire de la rebâtir ? Dit Manuel, quitte à s'en repentir ensuite, comme cela arriva jadis à une femme qui avait une grande dévotion pour ce saint. Elle avait une fille si laide, si sotte et si inepte qu'elle ne pouvait trouver personne qui voulût s'en charger. » La pauvre femme désolée était sans cesse agenouillée devant l'image du saint, lui demandant un mari pour sa fille. Enfin, il s'en présenta un, et l'on ne saurait dire sa joie. Mais ce bonheur dura peu, car il devint tellement méchant et maltraita tellement sa femme et sa belle-mère que cette dernière s'en fut à l'église, et s'étant placée devant le saint, elle lui dit « Vilain Saint-Christophe, patasas manianas, vieux cuir tanné, tu es aussi juif que mon gendre. » Pendant cette conversation, Morongo s'éveilla, arrondit son dos comme celui d'un chameau, poussa un grand bâillement, se pourlécha les moustaches, et, aspirant dans l'air certaines émanations qui flattaient son odorat, il se rapprocha petit à petit de Don Modesto jusqu'à ce qu'il se trouvât derrière l'objet au parfum prononcé suspendu à son bâton. Mais en ce moment, il reçut sur ses pattes veloutées une petite pierre lancée par Momo avec cette dextérité particulière aux enfants de son âge. Le chat se retira lestement, mais il ne tarda pas à venir se remettre en observation en faisant semblant de dormir. Don Modesto comprit la ruse et devint inquiet. Pendant que ces évolutions s'exécutaient, Anis demandait à son petit frère « Manolito, combien y a-t-il de dieux ?» Et l'enfant leva trois doigts. « Non, disait Anis, il n'y en a qu'un, un, un. » Et l'autre s'entêtait à lever trois doigts. « Grand-mère ! » s'écria Anis scandalisé. « Le petit dit qu'il y a trois dieux !»«
Sot que tu es !» répondit celle-ci. « Est-ce que tu as peur qu'on le livre à l'Inquisition ? Ne vois-tu pas qu'il est trop jeune pour comprendre ce qu'on lui dit et retenir ce qu'on lui apprend ?»«
Il y en a de plus vieux, dit Manuel, qui n'en savent pas plus long. Témoin cet imbécile à qui son confesseur demandait. « Combien y a-t-il de dieux ?»«
Sept, répondit-il avec assurance.
« Sept ? » s'écria le prêtre tout surpris. « Et comment établis-tu ton compte ?»
Très aisément. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en voilà trois. Les trois personnes distinctes en font trois autres. Cela fait six. Et un seul vrai Dieu, voilà bien les sept de mon compte.
Oison, lui répondit le Père, est-ce que tu ne sais pas que les trois personnes ne font qu'un seul Dieu ?
Un seul ? Pas davantage ?
Jésus, combien la famille a diminué !
« Allons, interrompit la tante Marie, on peut voir combien mon fils a appris de sornettes pendant qu'il était au service du roi. Mais parlons d'autre chose. Commandant, vous ne nous avez pas dit comment va la petite Marie Salade ?»«
Mal, très mal, tante Marie. Elle empire tous les jours. Cela me fait compassion de voir le pauvre père vieilli par le chagrin. Ce matin, elle souffrait beaucoup. Elle ne prend aucune nourriture et la fièvre ne la quitte pas un instant.
« Qu'est-ce que vous nous dites là, cher monsieur ?» dit la tante Marie. « Don Frédéric, vous qui avez fait de si belles cures, qui avez enlevé une loupe au frère Gabriel et redressé la vue de Momo, ne pourriez-vous pas faire quelque chose pour cette pauvre enfant ?»«
Avec beaucoup de plaisir, » répondit Stein, « je ferai ce que je pourrai pour la soulager. » »«
Et Dieu vous récompensera. Nous irons la voir demain matin. Êtes-vous fatigué de votre promenade d'aujourd'hui ?»
« Je ne voudrais pas être dans sa peau, » dit Momo en grommelant. « Du reste, c'est bien la fille la plus orgueilleuse. »«
Pas du tout, » répondit la grand-mère. « Elle est un peu farouche, un peu irascible. Cela se comprend. Elle s'est élevée toute seule et à sa tête, avec un père qui est doux comme un agneau, bien qu'il ait l'écorce un peu rude en sa qualité de catalan et de marin. Mais Momo ne peut supporter Marie Salade depuis qu'elle l'a appelée Romo. » Camus. En ce moment, on entendit un grand bruit. C'était le commandant poursuivant à grandes enjambées ce voleur de Morongo qui, trompant la vigilance de son maître, s'était emparé de la morue.
Mon commandant, lui dit Manuel en riant, la sardine volée par le chat retourne au plat tard ou jamais. Mais voici une perdrix pour la remplacer. Don Modesto prit la perdrix, remercia et fit ses adieux. Puis il s'en alla en pestant contre les chats. Pendant toute cette scène, Dolorès avait donné le sein à son nourrisson et cherchait à l'endormir en chantant ainsi. Là-haut, sur la montagne du Calvaire, mont des Oliviers, mont parfumé, la mort du Christ était chantée par quatre chardonnerets et un rossignol. Il serait difficile à celui qui recueille au vol, comme fait un enfant avec les papillons, ces émanations poétiques du peuple, de dire à celui qui voudrait les analyser pourquoi le rossignol et les chardonnerets se lamentèrent sur la mort du Rédempteur, pourquoi l'hirondelle arracha les épines de sa couronne, pourquoi l'on montre un certain respect pour le romarin dans la croyance que c'était sur un buisson de cette plante aromatique que la Vierge faisait sécher les langes de l'enfant Jésus, pourquoi et comment on sait que le saule est regardé comme un arbre de mauvais augure depuis que Judas s'est pendu à un arbre de cette espèce, pourquoi une maison est préservée de tout mal si l'on s'y parfume avec du romarin pendant la nuit de Noël, pourquoi tous les instruments de la Passion sont représentés dans la fleur qui porte ce nom. Et véritablement, à de semblables questions, il n'y a pas de réponse. Le peuple n'en a pas lui-même et n'en demande pas. Il a recueilli ces chants comme les sons vagues d'une musique lointaine, sans s'occuper de leur origine, ni examiner leur authenticité. Les savants et les hommes positifs accorderont l'honneur d'un sourire méprisant à la personne qui publie ces lignes. Pour nous, nous nous contenterons de trouver quelque sympathie dans le cœur d'une mère, sous l'humble toit qui abrite peu de science et beaucoup de sensibilité, ou dans la retraite mystique d'un cloître, car nous sommes persuadés qu'il y a toujours eu et qu'il y a encore pour les âmes pieuses et austères des révélations mystérieuses que le monde regarde comme l'effet du délire d'imagination surexcitée et que les gens pleins de foi et de ferveur considèrent comme des faveurs particulières de la divinité. Combien y a-t-il d'idées, dit Henri Blaze, que la tradition jette dans les airs à l'état de germe, qui sont ensuite vivifiées par le souffle du poète. Et cela nous paraît applicable à ces choses que rien ne nous oblige à croire, mais que rien non plus ne nous autorise à condamner. Une origine mystérieuse en a déposé le germe dans l'air, et les cœurs croyants et pieux lui donnent la vie. Que les apôtres du rationalisme s'efforcent tant qu'ils voudront de détruire l'arbre de la foi, il a ses racines dans un bon terrain, c'est-à-dire dans les cœurs purs et fervents, et il donnera éternellement des rameaux vigoureux et couverts de fleurs qui s'élèveront vers le ciel. Mais, don Frédéric, dit la tante Maria, tandis que celui-ci se livrait aux réflexions qui précèdent, vous ne nous avez pas encore dit comment vous trouvez notre village. Je ne puis le dire, répondit Stein, car je ne l'ai pas vu. Je suis resté dehors à attendre mon mot. Est-il possible que vous n'ayez pas vu l'église, ni le tableau de Notre-Dame des Douleurs, ni Saint-Christophe si grand et si beau, avec son grand palmier et l'enfant Jésus sur les épaules, et une ville à ses pieds, si bien que s'il faisait un pas, il l'aplatirait comme un champignon. Vous n'avez pas vu le tableau montrant Sainte-Anne qui apprend à lire à la Sainte Vierge? Vous n'avez rien vu de tout cela? Je n'ai pas vu autre chose, dit Stein, que la chapelle du Seigneur du Secours. Je ne sors du couvent, dit le frère Gabriel, que pour aller tous les vendredis à cette chapelle demander à Dieu la grâce d'une bonne mort. Et avez-vous fait attention au miracle, don Frédéric? Dit la tante Marie. C'est à ce calvaire que commence le chemin de la croix. De là à la dernière croix, il y a le même nombre de pas qu'il y avait de la maison de Pilate au calvaire. Une de ces croix se trouve juste en face de ma maison, dans la rue Royale. Vous n'y avez pas fait attention? C'est précisément elle qui forme la huitième station où notre divin Sauveur dit aux femmes de Jérusalem « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Ces enfants, ajouta la tante Maria, en s'adressant au frère Gabriel, c'étaient ces chiens de Juifs. C'étaient les Juifs, répéta le frère Gabriel. À cette station, poursuivit la vieille, les fidèles chantent ces paroles. Le Christ apprend à pleurer. Si tu ne retiens pas sa leçon, ou tu n'as pas de cœur, ou il est de bronze ou de rocher. Près de la maison de ma mère, dit Dolorès, se trouve la neuvième station devant laquelle on chante « Considère combien tu serais dur pour Jésus accablé de souffrance si, dans ces trois chutes, tu ne lui donnais pas la main une seule fois. » Ou bien encore « Le voilà encore une fois tombé, Jésus est tombé trois fois. Mon péché est si lourd et j'ai tant péché. Pleurons et gémissons, car c'est Dieu qui va mourir. » Oh, don Frédéric, reprit la bonne vieille, il n'y a rien qui me fende le cœur comme la passion de celui qui est venu pour nous racheter. Le Seigneur a révélé à ses saints les trois plus grandes douleurs qui déchirèrent son cœur. La première est le peu de fruits que produirait la terre qu'il arrosait de son sang. la seconde, ce qu'il souffrit quand ils l'étendirent et l'attachèrent avec des clous sur la croix en disloquant tous ses os comme David l'avait prophétisé. La troisième, ajouta la bonne femme en attachant sur son fils ses regards attendris, la troisième quand il fut témoin de la désolation de sa mère. Voilà le seul motif pour lequel je me plais moins ici que dans le village, poursuivit-elle après quelques instants de silence. C'est qu'ici je ne puis faire toutes mes dévotions. Mon mari, oui. Manuel, ton père, qui n'avait pas été soldat et qui était meilleur chrétien que toi, pensait comme moi. Le pauvre homme, que Dieu et son âme, était de la confrérie du rosaire et de l'aurore, qui sort après minuit pour prier pour les morts. Harassé du travail du jour, il se livrait au sommeil. Mais, à minuit précis, un frère venait, sonnant avec une clochette à la porte, et en chantant « Il y a à la porte une clochette, ce n'est pas elle ni moi qui t'appelle, c'est ton père et ta mère qui t'appellent, afin que tu pries Dieu pour eux. » Quand ton père entendait ce chant, il ne sentait plus de fatigue ni d'envie de dormir. En un clin d'œil, il se levait et courait après le frère. Il me semble que je l'entends encore chanter en s'éloignant. « Marie ôte sa couronne et la présente à son fils. » Et elle lui dit « Je ne suis plus reine si tu n'arrêtes pas ta justice sévère. » Jésus répondit « Sans tes prières, ô ma mère, j'aurais déjà châtié le pécheur. » Les enfants, qui aiment tant à imiter ce qu'ils voient faire aux grandes personnes, se mirent à chanter sur l'air charmant des couplets de l'aurore. « Si tu savais l'entrée que fit le roi des cieux dans Jérusalem, il ne voulut ni carrosse ni calèche, mais un ânon qu'on lui prêta. » Don Frédéric, dit la tante Marie, après un moment de silence, « est-il vrai qu'il y a dans le monde des hommes qui n'ont pas la foi ?» Stein garda le silence. « Ne pourriez-vous faire pour les yeux de l'intelligence de ces gens-là ce que vous avez fait pour ceux du visage de Momo ?» dit la bonne vieille, triste et pensive.